poser un parcours de miséricorde. Et j'imagine que vous avez déjà pu le découvrir en parcourant les différents panneaux qui ont été installés dans le cloître depuis le mercredi des cendres. Et nous avons tout aussi naturellement décidé de centrer les prédications des vêpres du temps du carême sur la miséricorde et notamment sur les témoins de la miséricorde. Aujourd'hui et dimanche prochain, ma prédication portera sur le Saint Curé d'Ars, un témoin si parlant de la miséricorde. Et aujourd'hui, je vous propose que nous commencions par faire un peu d'histoire, parce que cette histoire est très parlante, notamment pour comprendre comment il est devenu ce témoin de la miséricorde. Et dimanche prochain, nous regarderons comment il a parlé de la miséricorde et comment il l'a vécu dans son ministère. Alors faisons un peu d'histoire. Le gros problème dans ce qu'on appelle la géographie, ce mot signifie la manière de raconter la vie des saints, le gros problème c'est que souvent, en tous les cas dans le passé, la vie de ces grands témoins a été complètement déconnectée de l'histoire, du contexte dans lequel ils ont vécu. Or, la sainteté ne fleurit pas en l'air, comme ça, de manière intemporelle. La sainteté, elle fleurit bien enracinée dans une terre, dans une histoire. Et c'est pour cela que je veux commencer par rappeler quelques éléments du contexte historique si troublé dans lequel a vécu Jean-Marie Vianney. Le curé d'Ars est né en 1786. Quand on a dit cela, on a presque déjà tout dit. 1786, c'est donc 3 ans avant le début de la Révolution française. Je ne veux pas faire un grand cours d'histoire, mais vous vous rappelez sûrement de ce que vous avez appris à l'école. C'était une époque de grande détresse au royaume de France, un royaume dans lequel il y avait beaucoup d'inégalités et donc beaucoup de misère. Et figurez-vous que déjà à ce moment, les caisses de l'État étaient vides. Ça n'a pas bien changé. À cause des guerres qui étaient menées sans répit et qui coûtent beaucoup d'argent. Et puis surtout à cause du train de vie mené par tous ceux qui vivaient à la cour, qui ne travaillaient pas mais qui dépensaient beaucoup. C'est donc pour trouver une solution que le roi va convoquer les États généraux. Alors les États généraux étaient partis avec de très bonnes intentions, mais ils vont vite être remplacés par l'Assemblée constituante. Et cette révolution, qui était partie bon enfant, on garde tous le souvenir des droits de l'homme et du citoyen, va vite complètement basculé et notamment dans un esprit très anticlérical, elle va légiférer pour transformer l'Église et tout cela évidemment sans consulter le pape. On veut désormais une Église démocratique. Les évêques devront être élus au chef-lieu du département. On ramène le nombre de diocèses de 136 à 80. Des évêques sont donc débarqués, d'autres sont élus. Il faut désormais 6000 habitants pour faire une paroisse. Ce n'est plus l'évêque qui décide, c'est la loi. 6000 habitants, une paroisse. Et on va donc regrouper d'autorité les villages pour que Par groupe de 6000 habitants, il ne constitue plus qu'une paroisse. Et les curés, eux aussi, vont être élus au chef-lieu du canton. En plus, l'Église de France va se retrouver complètement coupée en deux à cause de ce terrible serment constitutionnel. Les prêtres, s'ils voulaient continuer à exercer leur ministère, devaient prêter un serment de fidélité à la Constitution. La moitié des prêtres vont refuser de prêter ce serment, l'autre moitié va le faire. Mais vous savez, tant pour ceux qui ont signé que pour ceux qui ont refusé de signer, la plupart ne comprenaient pas les enjeux de ce qu'ils faisaient. Le curé de Dardilly, village natal de Jean-Marie Vianney, l'abbé Ray, était un très bon curé, très aimé. Il va faire tous les serments, signer tout ce qu'on lui demandera de signer, et ainsi, il pourra rester sur place et continuer à exercer son ministère. Ce curé, il est tellement bon que personne ne lui en veut d'avoir prêté serment. Mais plus tard, ça va faire un gros problème, parce que peu à peu, les gens vont commencer à apprendre que le pape est contre ce serment. L'ayant appris, des membres de la famille de la maman, Vianney, viendront expliquer au Vianney qu'il ne faut plus aller à la messe de ce prêtre qui est un prêtre qui désobéit à Rome. Et alors c'est un drame pour cette famille qui habite à une centaine de mètres de l'église et qui va se priver d'Eucharistie. Alors que la moitié du village continue encore à aller à la messe de ce prêtre jureur. C'est une situation très douloureuse, difficile à vivre et difficile à comprendre, particulièrement pour le petit Jean-Marie, qui a donc grandi dans cette ambiance si troublée. Et c'est dans cette ambiance si troublée qu'il a entendu l'appel à devenir prêtre. Et je ne sais pas ce qu'il comprenait, mais en tous les cas, il comprenait que comme prêtre, sa vie allait être très difficile. Les années passent un peu, et en septembre 1792, c'est la terreur. La révolution va prendre une tournure très anticléricale. La religion est ridiculisée, des processions sont organisées avec un âne en tête de la procession qu'on coiffait d'une mitre d'évêque. La plupart des églises vont fermer. Celle de Dardilly va fermer de 1793 à 1795, plus de messe, plus rien. Le petit Jean-Marie et sa famille qui habitent si près de l'église ne peuvent même plus y aller pour prier. L'église est fermée. Or Jean-Marie, qui avait développé de belles qualités spirituelles, se retrouvait donc en situation difficile. Il va notamment exprimer son désir de faire sa première communion, mais qui doit être précédée d'une première confession. Mais comment faire sa première confession, sa première communion, dans ce contexte si difficile où les prêtres ne peuvent plus exercer leur ministère? On va profiter du passage dans la maison de la famille Vianney d'un prêtre réfractaire, c'est-à-dire un prêtre qui avait refusé de signer le serment de fidélité et qui devait donc vivre dans la clandestinité. On profite donc du passage de ce prêtre, l'abbé Grosbose, pour proposer à Jean-Marie de faire sa première confession. Et puis, on verra plus tard, quand l'occasion se présentera, il pourra faire sa première communion. Et il lui faudra attendre 2 ans. C'est donc à l'âge de 13 ans, profitant à nouveau du passage de ce prêtre, que Jean-Marie pourra faire sa première communion, dans la clandestinité totale. Plusieurs enfants sont réunis dans la maison où l'abbé Grosbose va célébrer la messe, et pour que personne ne se rende compte de ce qui se passe dans la maison, on décharge un char de foin devant la porte. Nul doute que ces deux sacrements, reçus de cette manière-là, auront profondément marqué le jeune Jean-Marie, qui réalise qu'un prêtre a risqué sa vie pour lui donner de pouvoir goûter à l'amour de Dieu. Alors c'est là qu'il a dû commencer à comprendre la valeur inestimable du sacrement du pardon et du sacrement de l'Eucharistie. Il fallait bien que ces sacrements soient de véritables trésors pour qu'un prêtre accepte de risquer sa vie pour les donner à ceux qui en étaient privés. Comme vous pouvez le constater, Jean-Marie Vianney a connu comme enfant une situation extrêmement troublée, tant au plan social qu'au plan ecclésial. Sa vocation n'est pas née dans le contexte d'une vie tranquille. Et c'est d'ailleurs à cause de ce contexte si difficile qu'il ne pourra pas aller à l'école. C'est vrai que les enfants de paysans n'allaient pas beaucoup à l'école. Mais avec la suppression des ordres religieux qui tenaient les écoles, il va devenir pratiquement impossible de recevoir une instruction. Parce que Jules Ferry n'était encore pas arrivé, c'était surtout les religieuses et les religieux qui tenaient les écoles. Quand les frères vont revenir à Dardilly et réouvrir l'école, Jean-Marie a 17 ans. C'est bien tard pour commencer à étudier. On comprend donc qu'il ait eu beaucoup de mal avec les études. Je veux encore souligner que l'Église de France a été saignée par cette tourmente révolutionnaire. Des dizaines de milliers de prêtres refusant de prêter serment, ont quitté le ministère par peur des représailles. D'autres sont partis se cacher, se sont retrouvés dans la nature, et un bon nombre ne reviendra jamais dans les diocèses d'origine. Et puis, il y a eu tous ceux qui ont été arrêtés, exécutés. Exécutés, j'oserais presque dire, pour les plus chanceux, parce que les autres étaient emmenés en déportation, passant par les tristement célèbres pontons de Rochefort. L'Église de France va passer en quelques années de 120 000 prêtres à 40 000. Vous imaginez? Dans cette situation, à la sortie de ces années si troublées, les évêques sont conscients qu'il faut vite intervenir pour former de nouveaux prêtres. Et c'est ainsi qu'au diocèse de Lyon, le cardinal Fesch va demander à ses meilleurs curés d'ouvrir dans leur presbytère des écoles ecclésiastiques pour recruter des jeunes et les former le plus rapidement possible pour qu'il puisse entrer au séminaire et remplacer tous les prêtres qui ont fait défection. Je fais une petite parenthèse sur le cardinal Fesch. Il était l'oncle de Napoléon. Il a été nommé à ce poste d'évêque de Lyon, archevêque de Lyon, par son neveu, alors même qu'il avait quitté le ministère. Il avait été vicaire général d'Ajaccio, et ensuite il a quitté le ministère. Il reprend du service à la demande de son neveu, Napoléon, et il sera un très bon évêque. C'est dire la situation de l'Église d'abord. On choisit comme évêque Primat de Gaulle, un curé défroqué, mais c'est aussi dire la puissance du Saint-Esprit quand on dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Eh bien, c'est vrai. Alors, en réponse à l'appel du Seigneur, entendu il y a pas mal d'années, Jean-Marie Vianney veut commencer sa formation pour devenir prêtre. Sa mère étant très pieuse, elle est heureuse de la vocation de son petit Jean-Marie, chez qui elle avait repéré des qualités spirituelles extraordinaires. Mais son père, alors là, c'était pas la même histoire. Bien sûr, il était croyant, mais il était un paysan, très près de ses sous. Et la vocation de son fils ne le réjouit pas du tout. D'abord parce qu'à l'époque, les parents devaient payer les études de leur fils quand il rentrait au séminaire. Et lui, comme il est très près de ses sous, ça n'intéresse pas beaucoup. Et en plus, il va perdre des bras qui auraient été précieux au travail de la ferme. Le père n'est donc pas favorable du tout à la vocation de Jean-Marie. Mais sans doute sous les pressions de la maman, il finira par accepter. Et ayant surmonté tant et tant d'obstacles, Jean-Marie peut enfin démarrer ses études. Seulement son niveau scolaire est tellement faible qu'il va être renvoyé du séminaire avec la mention « debilissimus ». Même si vous ne connaissez pas le latin, vous avez compris, « issimus », c'est le superlatif. « Debilissimus ». Et c'est donc à ce moment-là, renvoyé du séminaire, qu'il va être accueilli à Écully, chez le curé, l'abbé Ballet. C'était tout près de son village natal, et ce prêtre, un saint prêtre, avait donc, à la demande du cardinal Fesch, ouvert dans son presbytère une école ecclésiastique. Mais au début, l'abbé Ballet ne voulait pas prendre Jean-Marie. Il avait déjà un séminariste, et il trouvait qu'avec la charge de cette grosse paroisse, c'était suffisant. Et finalement, sur les pressions de la tante, il va accueillir Jean-Marie. Et la première fois qu'il le verra, il dira « Je me sacrifierai pour lui, afin qu'il puisse devenir prêtre ». La révolution est finie. Les Français ont coupé la tête à un roi et ils ont désormais un empereur, Napoléon, qui va mener tellement de guerres qu'il aura sans cesse besoin d'hommes pour devenir soldats, de la chair à canon. Comme séminariste, Jean-Marie Vianney n'aurait pas dû partir, mais l'abbé Ballet a oublié de le déclarer séminariste. C'est la seule négligence de ce saint prêtre. Jean-Marie est donc appelé. Mais pour lui, c'est dramatique. Au moment où il voit enfin la perspective de devenir prêtre, accompagné par l'abbé Ballet, au moment où il voit cette perspective pouvoir se réaliser, il doit partir à la guerre. Et ça va tellement le contrarier qu'il va tomber dans une dépression profonde qui va l'empêcher de rejoindre sa troupe. Il sera hospitalisé par deux fois à l'hôpital de Roanne. Mais Napoléon fait pression. Il lui faut des soldats. Et on le fait sortir de l'hôpital. Il est encore très faible. Mais on l'oblige à rejoindre son armée. En fait, il n'ira jamais. Volontairement ou pas, c'est bien difficile à dire. Il deviendra déserteur. Il faut dire que cette mobilisation non seulement contrariait son projet de devenir prêtre, mais en plus elle l'obligeait à servir l'empereur que le pape avait excommunié. C'était donc pour Jean-Marie Vianney un véritable cas de conscience. Devait-il aller faire cette guerre ou devait-il ne pas y aller? Les circonstances ont choisi pour lui. Il n'ira pas. Devant rejoindre sa troupe, étant encore si faible, il est malade et il s'endort dans une vigne. Et quand il se réveille, tous les autres soldats sont partis. Un homme passe et lui dit « Tu veux vraiment aller faire la guerre ?» Oh, il lui dit « Sûrement pas. » Il lui dit « Alors suis-moi, je vais te cacher. » Et il va donc rester caché un peu plus d'un an dans un petit village de la montagne près de Roanne, où malgré son faible niveau d'instruction, il va devenir instituteur. J'aurais aimé lire ce qu'il écrivait au tableau. Mais enfin, il en savait toujours plus que ceux à qui il enseignait. Seulement voilà, durant tout le temps où il est caché, les gendarmes vont se rendre chaque jour à la ferme familiale, menacer le père Vianney de lui faire payer jusqu'à son dernier sou s'il ne révélait pas où son fils était caché. Lui qui était si près de ses sous, ça ne le réjouissait pas. Et à la maison, la vie devenait absolument impossible. C'est pour cela que son plus jeune frère va prendre la décision de partir à la guerre à la place de Jean-Marie pour que le papa ne soit plus inquiété par les gendarmes. Mais ça ne règle pas tout. Parce que d'abord à la maison, le départ de ce deuxième fils fait que le père Vianney perd encore un enfant qui ne peut plus travailler avec lui. Jean-Marie est caché et l'autre est parti à la guerre. Et puis le drame arrive. On annonce que le frère parti à la place de Jean-Marie a été tué. Quand la nouvelle arrive à la maison Vianney, c'est la consternation. Et l'annonce de ce décès va tellement bouleverser la maman qu'elle va mourir de chagrin quelques mois après. Le père Vianney tiendra Jean-Marie responsable de ce désastre familial. Et lui-même, Jean-Marie, en gardera une profonde culpabilité. Il finira quand même par retrouver une relation apaisée avec son père. Mais il faudra du temps. Comme il le dira lui-même, les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Cette parole peut lui être attribuée. Mais voyez-vous, je suis convaincu que cette histoire tourmentée sera à l'origine de son amour pour les pécheurs. Jean-Marie Vianney savait qu'il était l'un des leurs, puisqu'il avait deux morts sur la conscience, même s'il ne l'avait pas voulu, son frère et sa maman étaient morts à cause de lui. Et alors il comprendra que s'il a pu devenir prêtre malgré tout, c'est par pure miséricorde du Seigneur à son égard. Et c'est donc de cette miséricorde que je parlerai dimanche prochain. Nous allons continuer l'office des vêpres et la messe suivra l'office.